Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Jésus, tu es offert pour nous. Tu as donné ton sang et ta vie pour nous. À toi la louange, la gloire, la majesté. À toi la victoire au siècle des siècles. Sauveur. Sauveur et Seigneur, roi des rois pour l'éternité. Roi des rois pour l'éternité. Nous te bénissons. Tu es allé jusqu'au bout parce que tu nous as tant aimés. Seigneur, en cette journée de mémoire de ta victoire sur Satan, nous te chantons et nous te célébrons. Merci parce que la dernière étape va bientôt être franchie. Tu viendras pour prendre auprès de toi tous ceux qui se sont réconciliés par la croix. Tu viendras bientôt pour prendre auprès de toi tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont dit non délibérément de leur propre choix, de leur propre volonté. Non à Satan, non au péché, non aux ténèbres, non à l'impureté, non à toutes ces choses qui détruisent la société du monde et qui déjà te servent maintenant. Bientôt, Seigneur, la dernière étape va être franchie. Tu prendras ton peuple auprès de toi. Tu leur donneras un nouveau corps et ils vivront avec toi pour toujours. Seigneur, nous chantons ta victoire parce que ta victoire, c'est notre victoire. Et nous te bénissons pour la réalité de Golgotha. Non seulement Golgotha, ton œuvre ne s'est pas arrêtée là, mais du tombeau ouvert et vide, oh Jésus, 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 nous te disons merci, nous te disons merci. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit enfin, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jean 19, 28 à 30. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Vous pouvez me poser la question, pourquoi chantons-nous une victoire quand il s'agit d'une mort? Oui, c'est vrai, mais il n'y a jamais de résurrection sans mort au préalable. Et s'il en a été ainsi pour Jésus, à plus forte raison pour ceux qui ont cru en lui. Si nous voulons participer à sa résurrection, être une même plante avec lui dans sa mort et dans sa résurrection, il nous faut mourir. Qui aime la mort? Que celui-ci se lève et qu'il le déclare ouvertement. Aucun être vivant, raisonnable, va affectionner la mort. Et pourtant, sans mort, il n'y a pas de résurrection. Et la parole de Dieu nous exhorte à mourir à nous-mêmes, à nous mourir à nos propres désirs et à nos propres passions, à mourir au monde, à mourir à ce que nous aimons dans le monde, à mourir à notre propre volonté, à tout abandonner, à être identifié avec Christ, afin de ressusciter avec lui au grand jour qui approche. Lorsque Jésus, pendu au bois, subissait et endurait le martyre, le martyre le plus atroce qui puisse être infligé à un être humain, après avoir subi les coups, les flagellations, après avoir subi les clous dans ses mains, dans ses pieds, avoir eu le corps couvert de blessures, avoir eu la couronne d'épines plantée sur sa tête, et après avoir passé des heures dans une agonie lente, sans espoir de soulagement, alors que la vie de son corps humain s'en va lentement, Jésus s'écria, « J'ai soif !» On lui imbiba alors une éponge pleine de vinaigre qu'on fixa à la tige d'un roseau, d'hysope. Il en but quelques gorgées. Vous voyez, c'est tout ce que l'homme a trouvé à lui donner pour le soulager de sa soif, l'aigreur du vinaigre. C'est à ce moment-là qu'il cria avec force, dans Jean 19, 30, qu'il cria avec force, « Tout est accompli !» Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. J'appelle ça un cri de triomphe, un cri de victoire. Tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été planifié pour le salut des hommes, tout ce qui était exigé par la justice divine, du Dieu saint qui ne peut voir ni supporter le péché, tout ce qui était exigé pour payer la rançon de l'homme pécheur en faveur du criminel, du menteur, du voleur, de l'impur, pour le sauver, tout a été accompli. La porte du ciel est ouverte désormais à quiconque croit. Tout est accompli. Cri de victoire. Cri de victoire à ces mots, les chaînes tombent pour celui qui croit et se repent. À ces mots, les prisons dans lesquelles les esclaves sont enfermés, rendus esclaves par Satan, par toutes sortes de passions mauvaises qui les détruisent, ils n'arrivent même pas à en sortir, liés qu'ils sont dans la prison de Satan. À ces mots, les prisons des pécheurs, esclaves du péché, ces prisons s'écroulent. À ces mots, les barrières qui nous séparent du Dieu vivant, du Dieu saint, ces barrières tombent les unes après les autres, plus de séparation. Et les portes qui donnent accès au trône de Dieu, ces portes fermées depuis des siècles et des siècles, qui empêchaient l'homme d'avoir communion directe avec Dieu, ces portes s'ouvrent enfin afin de laisser passer le pécheur qui se repent, le pécheur qui croit et reçoit le pardon, qui croit et reçoit par la foi la vie et une vie nouvelle, et une vie éternelle. Hébreux nous le dit bien, au chapitre 4 et au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Oui, nous pouvons avoir du secours désormais, du secours à cause de la croix, à cause du sacrifice, à travers le tombeau vide. Nous pouvons avoir de l'aide, du secours. Nous pouvons avoir la protection que nous cherchons. Nous n'avons pas besoin d'aller vers des charlatans pour chercher une protection quelconque. Nous n'avons pas besoin de porter autour de notre cou quelques talismans de protection soi-disant. Nous n'avons pas besoin d'avoir dans notre maison un crucifix ou une image dite sainte pour nous protéger. Non ! Tout cela ne sont que des choses fabriquées par les hommes. Nous avons protection et entièrement entier accès auprès du Dieu puissant, le roi de gloire, à travers la croix et le tombeau vide. Le tombeau vide. Nous avons accès auprès du trône, d'où nous aurons la protection, nous aurons le secours opportun. Cri de victoire, désormais, l'accès du trône de la grâce et de la gloire de Dieu est ouvert à quiconque croit, sans exception, au plus mauvais comme au moins mauvais. C'est un cri de victoire, un cri de joie à travers la souffrance. Cet homme qui, couvert de blessures, à cause du combat qu'il vient de mener contre son plus grand ennemi, l'a terrassé son ennemi, et qui, malgré sa souffrance, il crie sa victoire. Cet homme, qui donc est-ce ? C'est Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde. Dans 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Après son cri de victoire, il courba la tête et il dit, et il rendit l'esprit. Où donc est cette victoire que nous prétendons qu'il ait obtenue à ce moment-là, si après avoir crié « Tout est accompli », il baisse la tête et rend l'esprit. Une fois que la mort a frappé, il ne reste plus rien. Oui, pour toi, homme, c'est comme l'inconnu, c'est comme le néant, c'est comme la chose qui fait peur à l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est la chose qui fait trembler et qu'on veut reculer autant que possible, mais qui est une échéance qui vient dans la vie de tous, sans aucune exception. Une fois que la mort a frappé, il ne reste plus rien, non ? Mais pour lui, c'est différent. Pour lui, c'est différent. Rien ne peut le retenir dans le tombeau. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il est saint et il n'a pas péché. Quoi qu'il ait pris le péché du monde entier sur ses épaules et que la colère de Dieu est tombé sur le péché personnifié en sa personne, lui n'a jamais péché. Dans 1 Corinthiens 15, 56, il est dit, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Mais comme il n'avait pas péché, et comme le salaire du péché, c'est la mort, mais qu'il n'avait pas péché, il est mort dans son corps humain pour le péché des hommes, mais la mort ne pouvait le retenir car il n'avait point péché. Son œuvre de salut et de rédemption commence déjà. Au niveau des hommes, son corps humain est mis au tombeau et il descend, la Bible nous le dit, jusqu'au séjour des morts où il va annoncer sa victoire et libérer les esprits en prison. Il fallait bien 3 jours dans le tombeau, dans le séjour des morts, pour proclamer sa victoire dans le séjour des morts à tous ceux qui attendaient le jour de la victoire afin d'être libérés. Un grand bouleversement prend place lorsque Christ descendit dans le séjour des morts, où les croyants de l'Ancien Testament attendent, attendent la victoire qui les libérera. Ils ont cru, oui, mais il fallait que leur dette soit payée. Il fallait que leur dette soit payée. Éphésiens 4, versets 8 à 9, il est dit, « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Voilà l'œuvre qu'il a faite pendant ces 3 jours. Christ a libéré par sa victoire les croyants de l'Ancien Testament du séjour des morts et il les a amenés dans le paradis. Dans le paradis où jusqu'à maintenant personne n'était. Le premier, un des premiers qui était dans le paradis, c'est ce brigand qui s'est converti sur la croix alors qu'il pendait au bois et qu'il voyait Jésus mourir comme lui. Il a cru au miracle. L'avait-il entendu déjà? L'avait-il entendu? Savait-il ce qu'il prêchait? Il savait, lui, qu'il portait sa propre iniquité, en vertu de quoi il avait été crucifié. Mais, entendant, voyant l'attitude de Jésus, là sur la croix, il a cru en lui. Et il lui a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc tu es roi, et ton royaume n'est pas ici-bas. Quelle foi au moment de mourir. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Il savait qu'il était pécheur. Il a repris son compagnon de souffrance en lui disant, « Cet homme n'a rien fait de mal. » Nous sommes là à cause de nos crimes, mais lui n'a pas fait de mal. Nous portons le fardeau de nos propres iniquités, mais lui n'a point péché. Et il se tourna vers Jésus et lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle foi alors que ce roi puissant cloué au bois meurt comme lui ?» Donc, il y a quelque chose au-delà de ses souffrances. Il y a quelque chose au-delà de ce monde de péché. Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pour toi, il n'y a pas de séjour des morts, comme tous ces saints de l'Ancien Testament qui sont morts et qui attendent le jour de la résurrection. Pour toi, il n'y a que le paradis, parce que je paye ta rançon maintenant. » Et comme tu as cru, tu rentreras aujourd'hui avec moi au paradis. Ils étaient captifs, ces hommes de l'Ancien Testament. La justice de Dieu exigeait que la dette soit payée en entier. En entier. Ils étaient en attente. Et nous savons, par cette parabole, par cette histoire, que Jésus a lui-même prononcé devant ses disciples, de l'homme riche et du pauvre Lazare, qu'à cette époque-là, avant le sacrifice, il y avait 2 parties dans le séjour des morts. Ceux qui attendaient le jour de la délivrance, lorsque leur dette serait payée, et ceux qui étaient condamnés pour l'éternité. Frères et sœurs, désormais le séjour des morts n'est composé que ceux qui meurent dans leur péché. Il y a une place aujourd'hui préparée, une place temporaire préparée pour ceux qui meurent dans la foi, ils s'en vont au paradis où ils attendent dans la paix et dans la joie, ils attendent leur nouveau corps. Il fallait ces 3 jours avant la résurrection corporelle du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Car il fallait qu'il fasse participer à sa victoire tous les saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui avaient cru et qui attendaient d'être libérés, leurs dettes payées, ayant été payées en entier par le substitut qui a accepté de donner sa vie à leur place. Il est allé les libérer pour les faire entrer au paradis, au lieu intermédiaire où les saints attendent la résurrection avec un nouveau corps. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton saint voir la corruption. Ce passage est un passage des psaumes, rappelé dans le livre des Actes, et qui s'attache à Jésus, le Seigneur. Oui, en ce jour-là, il a crié ce cri de victoire. Tout est accompli. Jésus crie sa victoire alors qu'il n'y a pas encore d'évidence aux yeux des hommes. Tout est accompli. Cette petite phrase que nous avons en français est l'équivalent d'un mot unique en langue grecque. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et là, dans l'ancien grec, il existait un mot unique pour exprimer « tout est accompli ». C'était un mot qu'un fermier pouvait utiliser lorsque l'une de ses bêtes mettait bas, quand le petit animal sortait bien et parfait du ventre de sa mère, avec satisfaction, il prononçait ce mot. De même, lorsqu'un artiste travaillait sur un chef-d'œuvre, sur une pièce qui représentait quelque chose, un chef-d'œuvre, lorsqu'il avait achevé cette pièce, ce chef-d'œuvre, et qu'il regardait et qu'il le jugeait, il pouvait dire à ce moment-là, voyant que l'œuvre était terminée et achevée, il pouvait utiliser ce même mot. Le prêtre, lorsqu'il recevait un agneau pour le sacrifice de la main d'un adorateur, et que cet agneau était beau, parfait, qui remplissait toutes les conditions du sacrifice, il pouvait également utiliser ce même mot. Quand les temps furent accomplis et que l'agneau de Dieu s'est offert sur l'autel de la croix, il s'écria et prononça ce même mot qui, traduit dans notre langue, veut dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Cri de victoire. Oui, la souffrance, le fardeau, la mission est arrivée à sa fin, à son terme. Plus jamais il n'aura à endurer une telle souffrance. Plus jamais il n'aura à endurer la croix et le martyre. Plus jamais il n'aura à porter le péché de l'humanité tout entière. La culpabilité du péché du monde rebelle. Plus jamais il ne sera pressé de toutes parts par les puissances des ténèbres, les hordes de Satan qui voulaient le subjuguer et l'obliger à se plier à leur volonté. Plus jamais son moral et son physique ne seront agressés de cette horrible manière dans un corps humain. Plus jamais le rejet, plus jamais le mépris, plus jamais la solitude qu'il a connue, plus jamais la moquerie, plus jamais l'agonie physique et mentale à travers laquelle il a dû passer, plus jamais les coups, plus jamais la honte. Tout est accompli. La coupe était pleine, pleine. Il l'a bu jusqu'au bout, jusqu'à la lie. Tout est accompli. La révélation de Dieu aux hommes a été manifesté en sa personne. Dans Jean 1, 18, nous lisons, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Il l'a fait connaître. » Jésus le confirme lorsqu'il dit, dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » En Jésus, dans son humanité, Dieu devient visible. Dieu devient tangible. Il nous révèle le Père à notre niveau, avec un langage humain. Par Jésus et à travers Jésus, nous connaissons le Père. Pour savoir comment est Dieu, tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de regarder à Jésus. Il proclame dans sa victoire, après le terrible combat qu'il vient de mener, duquel il va se relever, tout est accompli. Absolument tout. Il a révélé le Père. Il a démontré l'amour du Père au monde. Et il l'a démontré dans sa personne. Autrement dit, tout est terminé. Le contrat, avec toutes ses clauses, est rempli. Tout engagement est rempli. Toute dette est payée. La mission est remplie. Avec succès, le sacrifice a été offert. Tous les sacrifices du passé, de l'Ancien Testament, trouvent leur accomplissement là. Ces sacrifices d'animaux, continuellement répétés, nous prouvent leur inefficacité et leur imperfection. Le sacrifice d'irrationnelle créature ne pouvait jamais satisfaire et suffire à la purification du péché de créature rationnelle. Mais à travers la mort du Christ, les sacrifices offerts depuis des siècles ont trouvé leur pleine signification. Dans Hébreux 10, 11 et 12, nous lisons ceci. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Un seul sacrifice pour les péchés est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Jésus est le sacrifice parfait, duquel les sacrifices exigés par la loi de Moïse n'étaient qu'un type. C'était qu'un type, une annonce de celui qui viendrait et qui serait parfait et qui seul pourrait ôter les péchés. Nous sommes au bénéfice d'une meilleure alliance, d'une alliance éternelle, à travers le sang du sacrifice du juste. Désormais, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. L'ancienne alliance laisse la place à la nouvelle alliance éternelle. En Jésus, le Seigneur, le Seigneur, Jésus pouvait dire avec force, « Tout est accompli. » Dans Jean 4, 34, il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voilà, d'accomplir son œuvre, l'œuvre, la tâche, le travail qui lui a été confié, afin qu'il le mène à bien. Et dans sa dernière prière, Jésus dit ceci, dans Jean 17, 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Si Jésus a eu une œuvre à accomplir sur cette terre, s'il était sur cette terre dans le but d'accomplir une œuvre selon le plan et la volonté de Dieu, une œuvre qui consistait à sauver l'humanité de ses péchés, à plus forte raison, il demande à ceux qui ont été rachetés par son sang à un si grand prix d'accomplir eux aussi une œuvre qu'il leur désignera d'accomplir avant son retour. Frères et sœurs, il ne nous a pas sauvés et payé un tel prix pour que nous restions inactifs. Non, il nous a sauvés pour un but. Sommes-nous en train d'accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée? À la croix, l'ennemi a engagé sa dernière attaque contre la semence de la femme de laquelle Dieu avait dit dans Genèse 3:15, « Elle t'écrasera la tête. » La semence de la femme, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Elle t'écrasera la tête. Il semblait que l'ennemi avait réussi, mais il s'est trompé. La résurrection a démontré que Christ est vainqueur. Que Christ est vainqueur. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire quelques résurrections qui se sont passées. Également dans le Nouveau Testament, dans le ministère de Jésus, juste avant sa mort, et le ministère des apôtres. Mais tous ceux qui ont été ressuscités, soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, sont morts une deuxième fois. Ils étaient ressuscités dans leur corps de chair seulement. Le seul qui a été ressuscité avec un corps glorifié, c'est Jésus-Christ le juste. C'est Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi Satan n'a jamais pensé qu'il ressusciterait avec un corps nouveau. Un corps nouveau. Aucun être dans les parvis éternels possède le corps que Jésus possède. Aucun être dans l'éternité n'a eu un corps tel que Jésus a eu. Les anges ont leur corps. Toutes les créatures que Dieu a créées ont leur corps, qui est différent du corps de Jésus ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous dit qu'il est les prémices de ceux qui sortiront du tombeau, et que ceux qui ont cru en lui hériteront de ce même corps. Satan ne pensait pas, car il n'y avait pas de prototype au préalable. Il ne savait pas que de cet homme de chair sortirait un homme nouveau avec un corps glorifié. Il ne le savait pas. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Il a englouti la mort dans sa victoire. Tout est accompli. Le moment du triomphe apparent de Satan est le moment même de sa défaite. La victoire sur la croix est devenue le grand victorieux. La victime sur la croix est devenue le grand victorieux à travers la croix. Christ est ressuscité. Il est vainqueur. Dieu a confirmé son Fils. Dieu a confié à son Fils, en confirmant son ministère par la résurrection, la tâche qu'il a accomplie, Jésus le Seigneur, est la tâche la plus lourde qu'on puisse imaginer. Le rachat de l'humanité, la rédemption d'un monde d'hommes remplis d'hommes esclaves de Satan. Quelle joie immense Jésus a dû éprouver. Lorsqu'il a poussé ce cri de victoire, tout est accompli. J'ai obéi. J'ai fait ce qui m'a été demandé. Tout obstacle entre l'homme et Dieu a été enlevé. Toute exigence de la loi parfaite de Dieu a été satisfaite. Rien à ajouter. Le rachat est complet. L'homme a accès direct à son Dieu. Le triomphe est la résurrection d'entre les morts. Dans Hébreux 12, verset 2, deuxième partie, il est écrit, « En vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Tout est accompli. Il est assis à la place de l'autorité. À la place de l'autorité. C'est lui, dans ce corps nouveau. Dans ce corps nouveau. Ce corps qu'il est le seul à porter pour l'instant là-haut dans la gloire. Il est le seul auquel toute autorité a été donnée. Voici, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Voilà ce que Jésus disait. Le grand vainqueur est sorti du tombeau et il vit pour toujours. Il nous donne le pardon et la vie éternelle, sans prise et sans argent. Un nouveau corps, c'est ce qu'il nous donne. Et ce nouveau corps, il le prépare pour nous. Et une place avec lui dans la nouvelle terre pour l'éternité. Nous sommes de son peuple, si du moins nous avons cru en lui. Christ est ressuscité. Victoire au Christ ressuscité. Et si vous ne l'avez pas reçu aujourd'hui, je vous invite à vous mettre en accord avec lui, afin que vous aussi, en ce jour qui est proche, vous puissiez être changé si vous vivez le jour de son retour sur cette terre. Si vous vivez, que vos corps de chair soient transformés en ce corps glorieux que lui-même a eu. Et que si vous mourrez, que vous attendiez au paradis la résurrection et que vous soyez revêtus de ce corps immortel, immortel que lui a, car il veut partager sa gloire avec son peuple. Aujourd'hui, nous allons prendre cette communion et nous souvenir ensemble de ce qu'il a enduré pour notre bien. Baissons la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta miséricorde. Ô Jésus, tu nous as donné la vie. Et cette vie, Seigneur, cette vie, elle est sortie de tes veines, de ton sang qui a coulé pour nous. Ô mon Dieu, donne-nous de comprendre ce que tu as accompli pour nous. Donne-nous de saisir la vérité du salut que tu as payé par ton propre sacrifice.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.